France Inter. Le 18-20. Claire Servagen.
Ça vous a sans doute échappé, et c'est bien normal, mais figurez-vous que c'est la fête des voisins aujourd'hui. Elle devait avoir lieu initialement en mai dernier, mais elle a été reportée en raison de la crise du Covid. Du coup, on n'en a quasiment pas parlé, mais qu'à cela ne tienne, ce soir pour nous, c'est un prétexte pour parler des relations de voisinage, un vrai sujet sur lequel psychologues, sociologues, philosophes, démographes se sont penchés, les juristes aussi, car les conflits de voisinage encombrent les tribunaux. L'INED, de son côté, a réalisé une passionnante enquête dont nous allons parler, l'enquête Mon quartier, mes voisins, réalisée juste avant la pandémie et complétée pendant la crise, histoire de voir si le Covid a modifié nos habitudes. Alors, on compte sur vous, ce soir plus que jamais, pour nous raconter vos relations avec vos voisins. Trois invités pour évoquer ce sujet avec nous. Hélène Leuillet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, psychanalyste. Vous avez publié aux éditions Albin Michel Du voisinage, réflexion sur la coexistence humaine. Charlie Caillou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes juriste à PAP, de particulier à particulier. Vous êtes aussi chroniqueur à France Info, co-auteur du livre « Je suis en conflit avec mon voisin ». En duplex de Lyon, en direct du studio de Radio France à Lyon, Jean-Yves Autier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sociologie à l'Université Lyon 2, chercheur au Centre Max Weber. Vos travaux portent sur les relations de voisinage et la sociologie urbaine. Et vous avez co-dirigé la fameuse enquête de l'INED dont nous allons parler. Alors, autant dire qu'on devrait pouvoir faire avec vous trois le tour de la question. N'hésitez pas à appeler le standard de France Inter.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, nous allons à Nantes retrouver Servane. Bonsoir Servane.
Bonsoir.
Alors dites-nous tout, comment ça se passe avec les voisins?
Eh bien, relativement bien en général, mais très mal avec mon voisin de l'appartement situé en dessous du mien. Très très mal, c'est-à-dire on en est rendu aux insultes. Hein.
Bon bah alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors il s'est passé que ce monsieur a acheté un appartement il y a 6 mois. Depuis 6 mois, il effectue des travaux de rénovation lui-même, sans entreprise, sans avoir prévenu aucun habitant de l'immeuble ni le syndic. Et moi, j'ai constaté des dégâts sur mon parquet d'origine. Il s'agit d'une construction de la fin du 19e siècle. Donc j'avais un parquet qui maintenant a bougé. Et voilà. Donc il y a eu une expertise. Et la seule chose qu'on m'ait opposée, c'est de me dire que je n'étais pas en état de présenter un état des lieux antérieur aux travaux.
Alors on ne va pas rentrer dans tous les détails, Servane, mais si je vous entends bien, ça se passe mal avec le voisin du dessous. Vous n'allez pas faire la fête des voisins avec lui ce soir. J'espère que ça se passe mieux avec les autres. En tout cas, vous n'êtes certainement pas la seule dans ce genre de situation. Je vous remercie mille fois d'avoir appelé France Inter pour cette entrée en matière. Je vais me tourner peut-être vers vous, Hélène Leillet, pour commencer. Vous qui avez beaucoup étudié l'histoire du voisin du dessus d'à côté. Le voisin du dessous, en général, il y a des soucis avec lui ou c'est pas celui avec lequel ça pose le plus de problèmes?
En général, c'est le voisin du dessus qui pose des problèmes. C'est celui qui nous persécute le plus. Dès qu'on entend du bruit, on accuse le voisin du dessus. Enfin, typiquement, hein, quand on entend une perceuse pendant le week-end, on se dit « ça vient du dessus ». Et là, évidemment, il s'agit du voisin du dessous, celui à qui, en général, on inflige, nous, des nuisances sonores, si on oublie d'enlever ses chaussures sur le parquet, etc. Mais bon, je veux dire que quand j'évoquais cette différence voisin du dessous, et que je dis ces généralités, c'est souvent au titre du fantasme, vous voyez, on pense que ça vient du dessus, et au contraire, on ignore celui du dessous. Dans la réalité, bien sûr, le conflit avec un voisin qui ne respecte pas les normes des travaux ou les moments où le bruit des travaux sont admissibles, ces conflits-là, ils peuvent venir un petit peu de n'importe où. Mais il est sûr que le fait d'être les uns au-dessus des autres, ça accentue. Hein, ça accentue la méfiance que l'on a à l'égard. C'est-à-dire le voisin du dessous, il doit effectivement vouloir à madame d'être au-dessus et de surveiller en quelque sorte, et il surveille en quelque sorte tout ce qui vient d'elle aussi.
Alors on a commencé avec un litige, un conflit. Charlie Caillou, vous qui êtes juriste, j'imagine que des histoires comme ça, vous en entendez souvent.
Oui, évidemment, il y en a beaucoup. Là, il y a deux choses dans l'histoire de Servane. Il y a les menaces, et pour ça, je pense que on peut aller à la gendarmerie ou au commissariat de police pour déposer une main courante. Alors, pour l'instant, il va pas se passer grand-chose, mais on n'est pas à l'abri que malheureusement le conflit dégénère, et donc c'est toujours bien de se préconstituer des preuves pour plus tard. Sur l'aspect des travaux, là, je peux pas rentrer dans le détail. Effectivement, oui, il faut pouvoir prouver son préjudice quand là, Servane prétend que ce sont les travaux de son voisin du dessous qui ont provoqué des fissures et des dégradations dans son logement. Il faut pouvoir le prouver. C'est difficile, effectivement. Il faut faire des expertises, il faut faire venir des
Il faut éviter surtout que ça aille plus loin, que ça dégénère, parce que ça, c'est une réalité aussi.
Oui, absolument. Donc, la communication est indispensable. J'ai l'impression qu'elle est déjà rompue, là, maintenant, avec ce propriétaire. On peut se faire aider pour discuter. On peut faire appel à un médiateur. Ou un conciliateur, au syndic également, parce que le syndic est là pour faire respecter justement la tranquillité au sein de la copropriété, dans les parties communes, mais aussi dans les parties privatives. Et donc, le syndic peut rappeler à l'ordre ce voisin pour lui demander de respecter les horaires auxquels on peut faire les travaux.
On va certainement y revenir au cours de l'émission, parce que j'imagine que il y aura d'autres cas de ce type qui seront évoqués. Jean-Yves Autier, vous qui êtes à Lyon, qui avez fait cette grande étude de l'INED sur le voisinage, là on vient d'entendre un cas particulier de conflit, mais globalement les relations avec les voisins elles sont plutôt apaisées. D'abord, dites-nous si les relations avec les voisins sont de l'ordre de ce qui est courant.
Alors, première chose à préciser, donc c'est pas seulement une enquête de l'INED. Vous avez dit que j'étais chercheur au centre Max Weber, et donc c'est un collectif qui associe à la fois des gens de l'INED et des gens d'autres laboratoires. Pour revenir sur ce qui vient d'être discuté, je dirais trois choses sans être trop long. La première, il y a deux choses qui ont été évoquées qui sont quand même différentes. La première, c'est les nuisances, et les autres, les conflits. Et je ne vais pas rentrer dans des chiffres, mais les enquêtés qu'on a interrogés évoquent beaucoup de nuisances, mais beaucoup moins de conflits. Les nuisances ne débouchent pas toujours sur des conflits, première chose. Deuxième chose, par rapport aux conflits, on a une image qui est alimentée notamment très largement par la presse quotidienne régionale, qui traite largement les relations de voisinage sous l'angle des conflits. Or, les conflits sont pas plus importants aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a 20 ans ou 30 ans. On a des proportions à peu près exactement pareilles dans notre enquête par rapport à l'enquête contact qui a été réalisée en 1980-82. Et puis, troisième chose importante à évoquer par rapport au conflit, le conflit est une forme particulière de relation. Voilà, c'est pas les gens qui ont des conflits ne sont pas dans des situations où ils n'ont pas de relations de voisinage. Ils ont justement des relations de voisinage, et j'ai envie de dire de façon simple, plus on voisine et plus on a de conflits.
Cette enquête, on s'y arrête un instant, Jean-Yves Autier, qui a donc été faite par l'INED et de différents organismes. Vous l'avez faite sur Lyon, sur Paris, dans des communes rurales, des deux régions, dans des quartiers de ville, des quartiers très différents. Vous avez interrogé, je crois, 2500 personnes en tout, de tous les milieux sociaux, de toutes les origines, de tous les âges. Qu'est-ce qu'on peut dire globalement, que c'est la tranche d'âge intermédiaire qui a le plus de contact avec ses voisins, le plus de relations?
C'est ça, c'est effectivement la tranche d'âge intermédiaire, c'est-à-dire aussi ceux qui ont des enfants, qui sont, comme on l'a dit de façon simple, les champions des relations de voisinage. Ce sont effectivement eux qui voisinent les plus, voilà. Et pour dire un mot un peu plus sur les résultats d'ensemble, le premier qui est quand même un résultat qui me semble important, savoir que par rapport à un certain nombre de discours sur le fait qu'on voisinerait de moins en moins, l'enquête montre qu'on voisine dans les années donc 2018-2019 autant qu'on voisinait dans les années 1980-1982, qu'on prenne les visites à domicile, qu'on prenne les services échangés entre voisins, on a des proportions qui sont à peu près effectivement les mêmes. Donc globalement, les relations de voisinage sont restées stables, mais vous l'avez dit au niveau de l'âge, mais c'est vrai au niveau d'autres propriété sociale des individus, les pratiques de voisinage sont socialement très sélectives. Il y a des catégories qui voisinent plus que d'autres, et il y a également des lieux dans lesquels on voisine plus que d'autres.
Et est-ce qu'on voisine plus en ville ou à la campagne, ou c'est pareil ?
Alors, on voisine beaucoup à la campagne. En ville, ça dépend du type de quartier dans lequel on est. On voisine assez peu dans les quartiers d'habitat social, donc dans les quartiers populaires. On voisine beaucoup plus dans les quartiers bourgeois ou dans ce qu'on appelle les quartiers gentrifiés, qui sont les quartiers habités par des classes moyennes, moyennes supérieures.
On reviendra forcément, Jean-Yves Autier, sur le contenu de cette enquête, mais on va repasser par le Standard de France Inter. Lionel, qui habite à Istres, est au bout du fil. Bonsoir Lionel.
Bonsoir.
Vous allez faire la fête ce soir ?
La fête pour la fête des voisins.
La fête des voisins.
Oui, écoutez, je viens de m'installer à peine, mais j'entends l'invitation à aller rencontrer mes voisins.
Bon.
Voilà, je vais aller vers eux.
Comment ça se passe alors ?
Ben écoutez, c'est juste ma petite interrogation, c'est par rapport au voisinage, mais est-ce que c'est pas juste un savoir-être qui est à valoriser, qu'on a un peu, enfin pas oublié, mais qu'on n'a pas forcément valorisé, et qui est en plus avec le fait qu'on s'individualise avec nos smartphones, etc. Moi, je suis plutôt issu d'un quartier populaire, comme on dit entre guillemets, et c'est vrai que moi, je me rappelle, j'ai entendu le monsieur qui disait que c'était moins dans les quartiers HLM, enfin, il y avait moins de voisins, enfin, on discutait moins entre les voisins, même à l'époque où j'étais. Effectivement, on avait beaucoup de fréquentations, etc. Maintenant, la différence, c'est qu'il y a beaucoup d'écrans. Donc, peut-être que c'est en amont à ramener un savoir-être. Ouais, de simplicité, d'aller toquer chez son voisin, de demander service, savoir demander et dire bonjour.
Merci Lionel pour cette question. Hélène Leuillet, est-ce que ces nouveaux outils numériques, notamment, nous empêchent d'aller frapper chez le voisin ?
Évidemment, on ne peut répondre que des choses un petit peu diverses. Il est sûr que des relations, il y a toujours, évidemment, qui soient sont marginales par rapport au numérique, soit sont d'ailleurs qui utilisent le numérique. Soit il y a énormément de plateformes de voisinage. C'est un fait qu'aujourd'hui, on ne se permet plus beaucoup, on ne se permet plus beaucoup d'aller frapper chez son voisin à l'improviste. On envoie d'abord un SMS ou certains passent par la plateforme de leur immeuble, etc. Pourquoi pas, c'est vrai qu'on peut pas avoir de grandes généralités sur le numérique. Il est utilisé aussi pour de nouvelles pratiques de voisinage. Il y a toujours des manières de voisiner. La question, c'est de savoir, je reprends votre terme, comment on est dans ces pratiques. Est-ce qu'on s'isole tout en ayant des relations, ou bien est-ce que véritablement le voisinage vient rompre l'isolement, comme ça a toujours effectivement existé. Mais les modalités, elles changent, et puis les fantasmes changent aussi.
C'est-à-dire ?
Est-ce que les fantasmes changent avec le rapport, la façon dont on se trouve par rapport à l'autre. Les fantasmes, ils viennent de ce que, il n'y a jamais seulement les pratiques, mais toujours ce qui nous fascine dans le voisinage. Vous savez, la fenêtre sur cour, la fenêtre du vis-à-vis, qui est à la fois ce qui nous attire et en même temps ce qui nous inquiète. On voit, on est regardé. Il y a le bruit du dessus, on l'a dit. Il y a ceux qui sont en dessous, qu'on ignore. Et puis, il y a ceux qui sont à côté et qui sont plutôt ceux qu'on croise, ceux avec qui on échange. Effectivement, les salutations sont toujours de grands rites de voisinage. C'est l'échange premier. Le voisinage, depuis l'Antiquité, c'est le premier lieu d'échange. Premier échange, c'est effectivement un échange de paroles, une conversation sur le palier, etc. Donc, il y a cette diversité qui fait que, il n'y a pas seulement des pratiques codifiées, mais qu'on habite ces pratiques par nos subjectivités. C'est ça qui est passionnant dans le voisinage. C'est que, bien sûr, on doit faire des chiffres, des enquêtes, mais c'est que ça échappe aussi aux grandes généralités, parce qu'on a affaire à la subjectivité de l'autre.
C'est l'aventure de la porte d'à côté. Jean-Yves Autier, sur le fait que les outils numériques pourraient changer les choses, d'après l'enquête que vous avez réalisée, c'est pas forcément le cas.
Alors,
si je vous ai bien lu.
Oui, mais vous avez bien lu, effectivement. Donc, Je vais dans le même sens qu'Hélène Leuillet sur le fait que la relation entre les relations de voisinage et le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication sont complexes. Parce qu'à la fois, on pourrait effectivement penser que ce développement-là, il va à l'encontre des relations de voisinage. Mais effectivement, ça a été dit, il y a tout un ensemble d'outils numériques qui sont directement ciblés sur les relations de voisinage et tout un ensemble de plateformes, etc. Et donc, dans l'enquête, on a regardé effectivement comment nos enquêtés utilisaient les différents outils, téléphone, mail, etc., dans les relations de voisinage. Donc, on constate qu'effectivement, c'est assez présent. Excusez-moi. Mais en même temps, c'est très diversifié également socialement. Certaines catégories utilisent ces outils-là. Et c'est plutôt des gens diplômés, situés en haut de la hiérarchie sociale, et d'autres qui se situent ailleurs dans la hiérarchie sociale les utilisent moins. C'est vrai également en partie en termes d'âge. Même si là, les jeunes qui sont pourtant des grands utilisateurs des nouveaux smartphones, etc., utilisent peu ces outils, mais parce qu'en même temps, ils voisinent peu.
Merci, et on y reviendra, Jean-Yves Autier. Alors, il y en a aussi qui font tout pour favoriser les relations entre voisins, et pas forcément avec ce genre d'outils. On va voir ça avec le créateur de la fête des voisins qui est en ligne avec nous, Athanase Périfan. Bonsoir.
Bonsoir.
Fête des voisins ce soir, créée il y a 20 ans. Quel était l'objectif? C'était j'imagine, de favoriser avant tout les contacts, c'est ça?
Oui, alors c'est parti d'un fait divers assez tragique. J'ai découvert une voisine qui était décédée depuis 4 mois dans son appartement. Et je me suis dit, il se cache derrière l'épaisseur des murs de nos immeubles, de nos maisons, des détresses qu'on voit pas. Trouve un prétexte pour entrer en contact, et c'est comme ça que la fête des voisins est née. Et on l'a étendue sur toute la planète. Aujourd'hui, c'est le premier rendez-vous citoyen sur la planète. C'est
toute
plutôt
la
réjouissant.
Planète.
Oui, toute la planète, 50 pays dans le monde, et c'est réjouissant parce que ça montre qu'on a tous besoin de liens, surtout dans cette période où on sort de 10 mois de distanciation sociale. Donc ce soir, on est tous très heureux, la fête des voisins, enfin elle revient, et ça c'est plutôt très sympa.
Vous croyez vraiment qu'il va y avoir beaucoup de manifestations, un petit peu dans certaines villes?
Je me suis promené dans mon quartier là tout à l'heure, moi j'habite le 17e arrondissement, j'ai déjà
de
vu
Paris
une quinzaine de fêtes, oui, une quinzaine
ah
de
bon
fêtes qui se
d'accord
préparent. J'ai reçu des milliers de mails d'invitations un peu dans toute la France, et j'ai expliqué que ce soir j'essaierai d'être aussi avec mes voisins. Non, je suis très confiant. C'est vrai qu'on n'aura pas les 10 millions de participants de l'année dernière, mais on redémarre, et surtout cette fête des voisins, on a envie de faire repartir cet élan de solidarité qu'on a tous connu, qui nous a enchanté. Souvenez-vous, il y a 18 mois, les voisins étaient aux fenêtres, applaudissaient, faisaient des masques. Il s'est passé quelque chose de beau, qui est un peu retombé. Comment on le relance? Et c'est ça qui est intéressant, cette fête des voisins va être le départ d'une nouvelle relance. On travaille sur un petit outil très simple qui s'appelle l'heurecivique.fr. Chaque habitant, chaque voisin va donner une heure par mois, s'il le souhaite, pour une action d'entraide, de convivialité, de solidarité, aller faire les courses pour la mamie âgée, réparer en fait peut-être un meuble d'une personne qui ne sait pas le faire. Voilà, on a tous besoin, après 18 mois de distanciation, de se ressentir utile socialement. On a envie d'aller vers les autres, alors comment on relance? Comme on est tous des voisins solidaires, tout simplement.
Merci beaucoup, Athanase Périfan, pour cette intervention. Et puis, allez-y, vous pouvez ressortir maintenant, je vous libère. Vous pouvez aller faire la fête dans votre secteur.
Je vais rejoindre mes voisins.
Voilà.
Je vous en fais un appel à tous les auditeurs. Les fêtes des voisins les plus réussies sont souvent les plus spontanées. Une fois que l'émission est terminée, vous allez frapper à la porte des voisins, vous descendez une petite table de cuisine, 3 cacahuètes, un jus d'orange, et vous verrez, c'est un moment magique.
Et hop, c'est parti. Merci beaucoup. Hélène Leuillet, vous êtes convaincue ou pas par ce genre d'initiative?
Écoutez, c'est vrai que Athanase a toujours des idées formidables. On avait déjà eu des émissions ensemble au moment de la fête des voisins. Mais bon, moi, il sait que je ne veux pas en faire une obligation aussi. On a le droit d'être timide, on a le droit d'avoir autre chose à faire ce soir. Enfin, la fête du voisin, je trouve formidable comme phénomène, comme phénomène de voisinage. Il m'est arrivé de participer à des manifestations de voisinage très sympathiques. Mais voilà, il faut pas que ce soit une nouvelle injonction. Il faut pas qu'il y ait de nouveaux codes qui viennent sur le mode de l'injonction. Il y a une régulation du voisinage. D'ailleurs, Jean-Yves Autier rappelait que la conflictualité fait aussi partie d'une de ces régulations du voisinage.
Le voisinage existe. Et puis le fait de garder ses distances, ça peut aussi être une façon de...
Absolument. Les voisins sont pas des amis, font pas partie de notre famille. C'est justement la richesse de ce lien, et qu'il n'est ni familial, ni forcément amical. Certains voisins peuvent devenir des amis. Ça m'est arrivé, ça m'arrive. Mais ce n'est pas pas absolument obligatoire. C'est un type de lien qui a sa spécificité et c'est ça sa richesse. D'ailleurs, sa spécificité, là je serais pas tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire, c'est que le confinement a aussi permis une nouvelle relation de voisinage. Enfin, il n'y avait que le palier. Je veux dire qu'on se retrouvait à attendre nos livraisons sur le palier, en chaussettes, à moitié coiffés, parce que confinés. Et là, les voisins échangent trois mots. Parce que quand ils livrent, bah, ils livrent les trois personnes du palier en même temps.
Ah bah alors on va
donc
demander...
il y a eu des relations de voisinage.
On va demander à Jean-Yves Vautier, parce que vous avez poursuivi votre étude au moment du confinement. Est-ce que le confinement a changé quelque chose?
Alors, je vais répondre directement sur cette question, mais si j'ai deux minutes, je reviendrai aussi sur ce qui s'est échangé. Globalement, contrairement encore une fois à ce qu'est laissé à penser les premiers mois du confinement, et notamment les applaudissements aux fenêtres, hein, qui ont d'ailleurs vite disparu à partir du premier confinement, il n'y a pas une modification, j'allais dire, extrêmement forte des relations de voisinage pendant la période de confinement. En tout cas, c'est ce que montre, là pour le coup, une enquête spécifique de l'INED. Et pas non plus de transformation très globale des hiérarchies sociales dans les relations de voisinage, c'est-à-dire que ceux qui voisinaient le plus avant le confinement sont toujours ceux qui voisinent le plus pendant le confinement, avec quand même des variations, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et parfois, pour certains, et notamment les champions du voisinage qu'on évoquait tout à l'heure, hein, les familles avec enfants, on a plutôt une diminution des relations de voisinage dans cette période. Mais donc, pour répondre de façon rapide, pas de transformation énorme dans cette période de confinement. Et puis, je voulais revenir sur la fête des voisins, quand même, pour en donner quelques résultats issus de l'enquête. Si on prend les données issues de notre enquête, c'est un tiers des enquêtés qui participent soit chaque année, 12%, soit de temps en temps à la fête des voisins. Donc c'est pas un mal. Tiers, c'est déjà pas mal. Mais en même temps, c'est effectivement quelque chose d'important, puisque si on regarde les effets de la participation à cette fête des voisins, on a là entre 75% pour ceux qui participent chaque année, 53% pour ceux qui participent de temps en temps, qui disent que d'avoir participé à la fête des voisins a renforcé leur lien de voisinage. Donc ça concerne une partie de la population, mais ça a effectivement un rôle assez structurant dans la construction des relations de voisinage.
Et est-ce que ça peut même permettre de désamorcer des conflits, Charlie Caillou?
Ah, je pense que la fête des voisins, oui, effectivement, oui. Ça permet un mode de communication informel, facile, et donc ça évite justement d'aller frapper à la porte pour donc déranger entre guillemets son voisin pour dire voilà. Ça me gêne, ça me dérange, il faut que vous changiez ça. Donc ça permet...
C'est une bonne occasion de faire passer des messages.
C'est une bonne occasion de faire passer des messages, alors évidemment pas sur des choses qui sont trop importantes, mais de faire quelques ajustements. Et en ce qui concerne le confinement, alors moi j'ai une vision biaisée, parce que en tant que jury je vois beaucoup de situations conflictuelles, mais je dirais que ça a quand même provoqué aussi le confinement, donc le fait que tout le monde se retrouvait dans les immeubles et chacun chez soi, avec des enfants, etc. Ça a aussi provoqué un certain nombre de conflits ou de gênes pour certains voisins. On a eu quelques appels comme ça.
D'être quasiment 23 heures sur 24.
C'est ça. Avec des personnes qui doivent travailler et en même temps au-dessus ça fait du bruit. Donc ça a pu aussi créer certains conflits, ce confinement.
Marie-Pascal est au bout du fil. Bonsoir Marie-Pascal.
Bonsoir.
Merci d'avoir appelé France Inter.
Donc je suis coordinatrice de médiateurs sociaux, je connais Hélène Lillier qui est venue faire une conférence à Toulouse sur les problèmes de voisinage pour les bailleurs sociaux de la Haute-Garonne. Donc nous sommes un centre de médiation sociale à destination du règlement des conflits de voisinage. Au départ des troubles de voisinage on dit. Et donc à ce jour on a traité plus de 1000 dossiers. Donc c'est une structure associative qui réunit une magistrate comme présidente avec des bénévoles qui sont avocats, juristes, mais aussi beaucoup de psychologues et de psychiatres. Bon. C'est pour la relation à l'autre, donc pour faire simple, on réussit à régler via la médiation 20 à 25% des litiges ou conflits ou malentendus, 60% des plaintes se calment. Et 20% restent, alors, partent en conflit juridique.
Mais en tout cas, vous arrivez à désamorcer des conflits.
Ah mais oui, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de réparer le lien. D'abord, le dialogue est rompu. Nous, notre truc, c'est l'amendier notre truc, c'est le dialogue.
Eh ben bravo.
Le dialogue, donc le principe de la médiation, c'est pas du tout du droit, hein, contrairement à M. Autier, on n'est pas là pour dire qui a tort, qui a raison. Ce sont des gens qui sont émotionnellement blessés, donc on les convoque, on les invite, parce qu'on n'a pas le droit de forcer la médiation, dans un lieu neutre. Le principe est rappelé de dire comment ça va se passer. Vous allez parler du passé avec les émotions qu'il y a à faire, c'est comme ça. Et donc nous, on pointe les émotions en tant que médiateur. Et puis, l'objectif, c'est de leur faire exprimer leurs besoins. Ils ne savent plus exprimer leurs besoins. Les gens sont dans la plainte. Alors là, du coup, ça leur fait changer. On leur interdit. On ne leur interdit pas comme ça formellement. On leur dit, le jugement, l'interprétation et la comparaison sont inutiles. Nous, on n'est pas là pour savoir qui a tort, qui a raison. On est là pour faire que vous êtes dans une relation inamicale, même dure et difficile. Est-ce que vous voulez rester dans cette relation ou est-ce que vous voulez passer à une relation plus apaisée? Et j'ai rarement des gens qui me disent on veut rester dans le conflit. Ceux qui veulent rester dans le conflit, bon, c'est une autre paire de manches. On les traite autrement. Mais sinon, ils ont tous les mêmes besoins. Moi, je leur dis, vous êtes tout nus. Quand vous naissez, vous êtes tout nus. Quand vous mourrez, vous êtes tout nus. Donc, arrêtez, parlez-moi de vos besoins. À un moment donné, de l'entretien, quand ils ont bien exprimé leur ressenti. Et à partir de là, c'est à eux d'élaborer la solution, ce dont ils ont besoin. Je ne veux pas de les enfants courent trop. Alors ça, c'est le champion du truc. Moi, j'ai cassé. Hein, j'ai un outil qui me permet de casser. Le hit parade, c'est les enfants qui courent. Après, j'ai toutes les statistiques. Après, j'ai 20% qui ne trouvent pas de solution parce que c'est des problèmes de santé mentale.
Mais en tout cas, 80%, Marie-Pascal, bravo pour tout ce travail. Hélène Leuillet, c'est vrai que donc vous allez les former parce que c'est un vrai travail de fond.
Oui, enfin non, j'étais pas allée former. On était allés discuter ensemble pour un colloque aux Amandiers, effectivement. Et je garde, bonjour Marie-Pascal, un très bon souvenir de cette journée très stimulante de dialogue où j'ai découvert. D'ailleurs, après mon livre sur le voisinage, j'ai découvert cette profession de médiation qui est en expansion aujourd'hui et qui a des effets formidables dans le social. Parce que pour des raisons, alors là, il y a toujours eu des relations de voisinage, mais pour des raisons qui seraient un petit peu longues de développer ici, le tiers, hein, l'instance du tiers, elle est plus du tout évidente à symboliser dans nos sociétés. Voilà, pas dire pourquoi, etc. Mais il se trouve que voilà. Et donc, on se permet davantage de choses dans le face-à-face, dans la relation de voisinage, des choses qu'on ne se permettrait pas ailleurs. Des mots qu'on ne prononcerait pas ailleurs qu'avec les voisins, et parfois pas dans l'intimité familiale ou amicale, hein, seulement avec les voisins. Et donc là, les médiateurs aujourd'hui, ce sont des tiers. Et effectivement, c'est la spécificité des Amandiers d'être très proche de la psychiatrie, de la psychanalyse, et on avait donc beaucoup discuté de cette façon-là de parler, de rétablir le lien, etc. Ils font un travail formidable.
Ce casque bleu du voisinage, Charlie Caillou, c'est évidemment une solution. Hein.
Oui, oui, moi, j'explique bien sûr les fondements juridiques pour agir en justice, donc aux personnes qui ont des problèmes de conflit de voisinage, mais je loue absolument le travail des médiateurs, toute la phase amiable qui est absolument indispensable pour dénouer un problème, puisque en justice, malheureusement, mais à la justice, c'est long, c'est coûteux. Le résultat est aléatoire. On y va parfois dans un esprit de vengeance par rapport à son voisin. Et il faut se souvenir que même si on gagne le procès, eh bien ensuite, il faudra continuer à cohabiter avec son voisin. Donc, on gagne peut-être une bataille en justice, mais pas la guerre.
Geneviève est à Villeurbanne. Bonsoir, Geneviève.
Bonsoir. Moi, je rebondis sur la dame précédente qui parlait des paroles. Moi, je dis les paroles gentilles, les paroles jolies. Mes voisins, pendant le confinement, sont venus, se sont inquiétés de moi. Je suis la plus âgée de la résidence et j'ai eu mes courses faites, des objets qui m'ont été donnés, des petits gâteaux, des petites intentions, des demandes de renseignements sur ce que j'avais besoin. Et là, les paroles restent toujours aussi avenantes.
Et Geneviève, je me permets juste de rajouter quelque chose parce que sur ma fiche, il est indiqué je suis malvoyante.
Donc, mais oui, je suis non-voyante.
Voilà, et donc vos voisins sont venus vous donner un coup de main.
J'ai eu des coups de main de partout, des gentilles expressions, et malgré ma cécité, j'appréciais bien les sourires des uns et des autres. Tous les gestes les plus amicaux, les plus sensibles, les plus discrets. Et je dis plutôt, moi, vive la vie, vive la proximité de toutes ces personnes,
Merci.
Les gentils sourires que je perçois derrière les masques.
Merci mille fois, Geneviève, de nous avoir appelé. Jean-Yves Autier, c'est rassurant pour l'état de notre société, ce qu'on entend ce soir.
Tout à fait, mais là d'ailleurs, le cas qui vient d'être évoqué fait partie finalement des petites choses qui ont changé dans le confinement. J'ai donné des résultats d'ensemble, hein, mais dans cette période-là, effectivement, il y a eu un sursaut, en quelque sorte, de liens et d'entraide en direction, effectivement, des personnes âgées. Ça, c'est un résultat très clair.
J'ai des questions qui nous arrivent par franceinter.fr aussi, c'est pour vous Charlie Caillou. On va pas y passer des heures, mais vous allez nous répondre, c'est pour vous. Un de mes voisins fume du cannabis, l'odeur est terrible chez moi, c'est Sabrina qui nous dit ça. Je pense qu'il s'agit de locataires qui fument sur le balcon, que faire ?
On peut aller voir ce locataire pour lui expliquer le problème. Parfois, il faut se rendre compte que le locataire fautif, entre guillemets, ne se rend même pas compte, en fait, du trouble qu'il cause. Et donc, il faut commencer par discuter avec ce locataire. On peut ensuite prévenir le syndic, puisque les nuisances olfactives, elles sont condamnées. Donc, on peut prévenir le syndic qui, comme j'ai dit tout à l'heure, doit faire respecter la tranquillité dans les parties privatives et puis dans les parties communes. Et puis le syndic, si d'autres personnes dans la copropriété se plaignent, eh bien va pouvoir enjoindre au bailleur de faire quelque chose, au bailleur de ce locataire de faire quelque chose et peut-être d'aller jusqu'à la rupture du bail si, en plus du cannabis, il y a d'autres troubles ou que les troubles, malgré les réprimandes, les troubles se répètent, continuent et que les autres occupants de l'immeuble continuent de se plaindre.
Que faire quand les nuisances sonores ne cessent pas la nuit malgré de nombreux rappels à l'ordre ?
Là, c'est le problème du bruit, hein, c'est le problème principal, le principal problème en matière de troubles de voisinage, le plus fréquent en tout cas. Ce qui est difficile, c'est d'établir la preuve de tout ça. Donc la preuve, on peut l'avoir par tout moyen, c'est-à-dire par des témoignages d'autres occupants de l'immeuble. On peut aussi faire appel à un huissier qui va venir se déplacer et donc venir dans le logement pour venir mesurer l'intensité du trouble et puis sa fréquence, sa persistance. Il va falloir accumuler un grand nombre de preuves pour pouvoir ensuite éventuellement agir en justice après, évidemment, toujours la phase amiable, la phase de négociation où on fait intervenir le syndic de copropriété, le bailleur, un conciliateur, un médiateur. Et puis ensuite, si malheureusement on ne trouve pas de solution, il ne reste là que la procédure judiciaire.
Frédéric est au bout du fil. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Dites-nous tout. Je ne sais pas d'où vous appelez.
Je voulais parler, j'ai remarqué qu'au Maroc, j'ai eu des liens longs et intenses avec le Maroc pendant plusieurs décennies. Et là-bas, les relations de voisinage sont très importantes. Les voisins sont considérés comme faisant partie intégrante de la famille. Et les voisins au sens large, pas juste le voisin de palier, mais l'immeuble, le quartier, voire même. Et ça fait vraiment partie de la famille. Ils sont partie prenante, etc., présentés comme tels. Et s'il y a une dispute à l'intérieur d'une famille, et bien tout le voisinage se doit d'intervenir, de venir dans la maison, de participer, de prendre parti, d'essayer de calmer les choses. Alors ça fait parfois beaucoup de monde dans un seul appartement. Mais voilà, il y a une vraie...
C'est pas forcément plus simple, hein.
Non, mais ça montre aussi qu'il y a un vrai souci des gens, des proches, quoi. Et il y a aussi des gestes de partage, beaucoup, que ce soit avec les personnes du Maghreb, que ce soit avec des personnes venant d'Asie centrale. On apporte très facilement, si on fait un bon repas, on apporte très facilement des assiettes pleines du plat principal ou des gâteaux, et ceci assez fréquemment.
Merci. Voilà. Merci Frédéric. Voilà. Merci de nous avoir élargi un petit peu l'horizon là. Ce soir, c'était important, Hélène Leuillet, effectivement.
Tout à fait. Effectivement. Écoutez, Frédéric, elle nous rappelle ce qu'on a parfois tendance à oublier, l'évidence, c'est que les voisins, ce sont des proches. Et on finit par oublier que les voisins, ce sont des proches. Et on demande parfois d'exercer une sorte de justice un petit peu étroite, alors qu'avec ses proches, on est forcément un peu plus large. Je veux dire, voilà.
Elle dit carrément, dans certains pays, c'est la famille.
C'est la famille. C'est-à-dire que de la famille, on tolère aussi des choses. On n'est pas sur une petite justice un peu pointilleuse. On tolère une chanson un peu forte et puis après, on dit, baisse la musique. Les voisins qui sont trop aux aguets sont des voisins qui cherchent les conflits. Parce que ce que rappelle aussi Frédéric, c'est que les voisins savent des choses sur nous. Hein. On ne va pas raconter à ses parents, on va pas raconter à ses amis qu'on s'est disputé la veille avec son conjoint. Elle a raison, Frédéric, sauf que les voisins, eux, ils le savent. Ils le savent. Et nous, on sait des choses sur eux, ils savent des choses sur nous.
Jean-Yves Vautier, une question qui nous arrive sur franceinter.fr. Jusqu'à quelle distance considère-t-on que les gens sont nos voisins? Est-ce que cette distance a évolué dans le temps?
Très très bonne question, qui renvoie effectivement à l'intervention tout à l'heure. Donc là, si on compare effectivement la réponse qu'on a posée dans le questionnaire, pour vous, votre voisin, c'est celui qui habite sur le palier, celui qui habite dans l'immeuble, celui qui habite dans la résidence, celui qui habite dans le quartier. Et ce qu'on observe en comparant avec les résultats de l'enquête, donc Contact 1980-82, c'est qu'il y a effectivement un certain élargissement de la définition du voisin, dans le sens où effectivement, de plus en plus, le voisin n'est pas seulement le voisin de palier, voire même le voisin d'immeuble, mais prend aussi d'autres habitants du quartier. Donc il y a un élargissement de la représentation, en quelque sorte, spatiale du voisin, qu'on constate effectivement dans l'enquête.
Merci beaucoup Jean-Yves Autier pour cette intervention. Le temps est passé très vite ce soir avec vous trois et tous nos auditeurs. En un mot, Charlie Caillou, le 10 secondes, le message que vous aimeriez faire passer ce soir en tant que juriste.
En tant que juriste, c'est de favoriser la phase amiable. C'est-à-dire qu'il y a des notions, comme le trouble anormal de voisinage, qui permettent d'agir en justice. Quand on en arrive là, quand on doit faire une assignation, c'est que déjà, on a un peu perdu, on est dans le conflit, on est dans l'argumentation. Il vaut mieux discuter en amont, calmement.
Hélène Leuillet, le mot de la fin sera pour vous.
La tolérance et la confiance.
Ah bah voilà. Mais c'est parfait. Vous m'avez fait une conclusion parfaitement. Mais elle nous a habitués à des réponses beaucoup plus longues, c'est pour ça. En tout cas, merci à tous de nous avoir appelés et merci à nos confrères de Radio France à Lyon pour nous avoir permis de dialoguer à distance avec Jean-Yves Autier. Juste après 20h, ce sera l'heure philo. Bonsoir Patricia Martin.
Bonsoir Claire Sarvajon.
Qui vient nous rendre visite ce soir?
Écoutez, nous allons parler de la honte avec notre invité Frédéric Gros.
Eh bien, on va écouter ça tout à l'heure et je vous conseille d'inviter Hélène Leuillet qui a plein de choses à raconter.
Quand elle veut.
Elle viendra dans votre émission. Merci à tous.